Chapitre 3. La veuve de Robert donna à Samchia d'Aragon, cette digne et sainte femme que nos lecteurs ont peut-être oubliée, comme on l'avait oubliée dans sa famille. Voyant la colère céleste planer sur sa maison, sans qu'elle pût l'arrêter par ses conseils, par ses prières et par ses larmes, après avoir porté une année entière, ainsi qu'elle en avait fait la promesse, le deuil du roi, son mari, prit le voile dans le couvent de Saint-Martin de la Croix, abandonnant cette pauvre cour à ses passions insensées, comme les anciens prophètes qui, tournant le dos aux villes maudites, secouaient la poussière de leurs sandales et s'éloignaient d'elles. La retraite de Samchia fut un triste présage, et bientôt les dissensions intestines, péniblement étouffées, éclatèrent au grand jour. L'orage, après avoir grondé dans le lointain, s'abattit tout à coup sur la ville et la foudre ne se fit pas longtemps attendre. Le dernier jour d'août de l'année 1344, Jeanne prêta hommage dans les mains d'Amérique, capitale cardinale de Saint-Martin-des-Monts et légat de Clément VI, qui regardait toujours le royaume de Naples comme inféodé à l'Église depuis la donation que ses prédécesseurs en avaient faite à Charles d'Anjou après avoir excommunié et détrôné la maison de Souabe. L'église de Sainte-Claire, tombeau des monarques napolitains, où reposait dans des sépultures récentes, à droite et à gauche du maître-autel, l'aïeul et le père de la jeune reine, fut choisi pour cette cérémonie solennelle. Jeanne, revêtue de la chlamyde royale, le front entouré de sa couronne, prêta son serment de fidélité dans les mains du légat apostolique, en la présence de son mari, qui se tenait debout derrière elle en qualité de simple témoin, comme les autres princes du sang. Parmi les prélats qui, ornés de fleurs à signes pontificaux, formaient la suite brillante de l'envoyé d'Avignon, remarquaient les archevêques de Pise, de Bari, de Capoue et de Brindes, et les révérends pères Hugolin, évêque de Castellia, et Philippe, évêque de Cavaillon, chancelier de la reine. Toute la noblesse napolitaine et hongroise était présente à cet acte qui écartait André du trône d'une manière si formelle et si éclatante. Aussi, à la sortie de l'église, l'effervescence des partis arriva-t-elle à une crise tellement imminente, on échangea des regards si hostiles et des propos si menaçants, que le prince, se voyant trop faible pour lutter contre ses ennemis, écrivit le soir même à sa mère en lui déclarant que son intention était de quitter un pays où, depuis son enfance, il n'avait éprouvé que déceptions et malheurs. Ceux qui connaissent le cœur d'une mère devineront facilement qu'Élisabeth de Pologne fut à peine avertie du danger que courait son fils, qu'elle arriva à Naples immédiatement et avant que personne soupçonnât sa venue. Le bruit se répandit aussitôt que la reine de Hongrie venait chercher son fils pour l'emmener avec elle, et cette résolution inespérée souleva d'étranges commentaires et donna une nouvelle direction à la fiévreuse turbulence des esprits. L'impératrice de Constantinople, la Catanèse et ses deux filles, et tous les courtisans, dont les calculs étaient déjoués par le brusque départ d'André, s'empressèrent de fêter l'arrivée de la reine de Hongrie par l'accueil le plus cordial et le plus respectueux, pour lui prouver que l'isolement et l'amertume du jeune prince au milieu d'une cour si prévenante et si dévouée ne donnaient qu'aux injustes défiants de son orgueil à la sauvagerie naturelle de son caractère. Jeanne reçut la mère de son mari avec un sentiment si ferme et si légitime de sa dignité que, malgré ses préventions, Élisabeth ne put s'empêcher d'admirer la noblesse sérieuse et la sensibilité profonde de sa belle-fille. Pour rendre à la noble étrangère plus agréable le séjour de Naples, On donna des fêtes et des tournois dans lesquels les barons du royaume rivalisèrent de luxe et d'éclat. L'impératrice de Constantinople et la Catanèse, Charles de Duras et sa jeune femme, se montrèrent les plus empressés auprès de la mère du prince. Marie, qui par son extrême jeunesse et par la douceur de son caractère, restait tout à fait en dehors des intrigues, céda plus aux impulsions de son cœur qu'aux ordres de son mari, en reportant sur la reine de Hongrie toute la tendresse et tous les égards qu'elle aurait eus pour sa propre mère. Même malgré ses protestations de respect et d'amour, Élisabeth de Pologne, tremblant pour son fils par un instinct de sollicitude maternelle, persistait dans sa première attention, ne se croyant en sûreté que lorsque André serait bien loin de cette cour, si douce en apparence et si perfide en réalité. Celui qui paraissait le plus consterné de ce départ et qui essayait de l'empêcher par tous les moyens était frère Robert. Plongé dans ses combinaisons politiques, courbé sur ses plans mystérieux avec l'acharnement d'un joueur au moment de gagner sa partie, le Dominicain, qui se voyait à la veille d'un immense résultat qui, à force de ruse, de labeur et de patience, allait enfin écraser ses ennemis et régner en maître absolu, tombant tout à coup du haut de ses rêves, se raidit par un effort suprême contre la mère de son élève. Mais la crainte parlait plus haut dans le cœur d'Élisabeth que tous les raisonnements du moine, et à chaque argument que frère Robert avançait, elle se contentait de répondre que, tant que son fils ne serait pas roi et n'aurait pas une puissance entière illimitée, il était imprudent de la laisser exposer à ses ennemis. Le ministre, voyant que tout était perdu et qu'il lui serait impossible de combattre les appréhensions de cette femme, se borna à lui demander encore 3 jours, au bout desquels, si la réponse qu'il attendait n'était pas arrivée, non seulement il ne s'opposerait plus au départ d'André, mais il le suivrait lui-même, renonçant pour toujours à un projet qui lui avait tant coûté. Vers la fin du 3e jour, et comme Élisabeth se préparait définitivement à partir, le moine entra d'un air radieux et lui montrant une lettre dont il venait de briser à la hâte les cachets. Dieu soit loué, madame, s'écria-t-il d'une voix triomphante. Je puis enfin vous donner des preuves incontestables de l'activité de mon zèle et de la justesse de mes prévisions. La mère d'André, après avoir parcouru avidement le parchemin, reporta les yeux sur le moine avec un reste de défiance, n'osant pas s'abandonner à la joie qui débordait de son cœur. Oui, madame, reprit le moine en élevant le front, et sa laideur s'éclaira par les reflets du génie. Oui, madame, vous pouvez en croire vos yeux, puisque vous n'avez pas voulu ajouter foi à mes paroles. Oh, ce n'est pas le rêve d'une imagination trop ardente, l'hallucination d'un esprit trop crédule, le préjugé d'une raison trop étroite. C'est un plan lentement conçu, péniblement élaboré, adroitement conduit. C'est le fruit de mes veilles, la pensée de mes jours, l'œuvre de ma vie entière. Je n'ignorais pas que la cause de votre fils avait de puissants ennemis à la cour d'Avignon, mais je savais aussi que le jour où je prendrais, au nom de mon prince, l'engagement solennel de retirer ces lois qui avaient jeté de la froideur entre le pape Robert, d'ailleurs si dévoué à l'Église, je savais qu'on ne résisterait pas à mon offre et je gardais ma proposition pour le dernier coup. Vous voyez, madame, mes calculs étaient justes. Nos ennemis ont été confondus et votre fils triomphe. Et se tourna vers André, qui arrivait à l'instant même, n'ayant entendu que les dernières paroles restaient interdites sur le seuil de la porte. Venez, mon enfant, ajouta-t-il. Nos vœux sont enfin comblés, vous êtes roi.
Roi ?
Répéta André à son tour, immobile de joie, d'hésitation et d'étonnement. Oui, roi de Sicile et de Jérusalem, oh oui, mon seigneur. Oh, vous n'avez pas besoin de lire dans ce parchemin qui nous apporte une nouvelle aussi heureuse qu'espérée. Voyez-le aux larmes de votre mère, qui vous ouvre les bras pour vous presser sur son sein. Voyez-le au transport de votre vieux précepteur, qui se jette à vos genoux pour vous saluer d'un titre qu'il aurait consacré de son sang si l'on s'était obstiné plus longtemps à vous le refuser. Et pourtant, reprit Élisabeth après avoir tristement réfléchi, si j'écoutais mes pressentiments, la nouvelle que vous venez de m'annoncer ne changerait rien à nos projets de départ.
Non, ma mère, reprit André avec énergie, oh, vous ne voudriez pas m'obliger à quitter le royaume au détriment de mon honneur. Si j'ai versé dans votre âme l'amertume et le chagrin dont mes lâches ennemis ont abreuvé ma jeunesse, ce n'est pas le découragement qui m'a fait agir ainsi, mais l'impuissance dans laquelle je me voyais de tirer une vengeance éclatante et terrible de leurs insultes secrètes, de leurs ouvrages détournés, de leurs menées souterraines. Non, ce n'était pas la force qui manquait à mon bras, c'était une couronne qui manquait à mon front. J'aurais pu écraser quelques-uns de ces misérables, peut-être les plus téméraires, peut-être les moins dangereux. Mais j'aurais frappé dans l'ombre, mais les chefs m'auraient échappé. Mais je n'aurais jamais atteint au cœur cette conspiration infernale. Aussi ai-je dévoré dans le silence l'indignation et la honte. Et maintenant que mes droits sacrés sont reconnus par l'Église, vous les verrez, ma mère, ces barons redoutables, ces conseillers de la reine, ces tuteurs du royaume, vous les verrez tomber le front dans la poussière, car ce n'est pas une épée qui le menace, ce n'est pas un combat qu'on leur propose, ce n'est pas un de leurs égaux qui leur parle. C'est le roi qui accuse, c'est la loi qui condamne, c'est l'échafaud qui punit. « Oh, mon fils bien-aimé !» s'écria la reine en pleurant. « Oh, je n'ai jamais douté ni de la noblesse de tes sentiments, ni de la justice de tes droits. Mais lorsque ta vie est en danger, puis-je écouter une autre voix que celle de la crainte? Puis-je donner d'autres conseils que ceux que m'inspire mon amour? Croyez-moi, ma mère, si la main de ces lâches n'avait pas tremblé autant que leur cœur depuis longtemps, vous eussiez pleuré votre fils. » Mais aussi n'est-ce pas la violence que je crains, mais la trahison? Ma vie appartient à Dieu, comme celle de tous les hommes. Et le dernier des sbires peut la prendre au détour d'un chemin. Mais un roi se doit à son peuple. La pauvre mère essaya longtemps de fléchir la résolution d'André par des raisons et par des prières. Mais quand elle eut épuisé son dernier argument, et verser sa dernière larme, voyant qu'il lui faudrait se séparer de son fils, elle fit appeler auprès d'elle Bertrand de Beaux, maître justicier du royaume, et Marie, duchesse de Duras, et, confiante dans la sagesse du vieillard et dans l'innocence de la jeune femme, elle leur recommanda son enfant avec les paroles les plus tendres, les plus déchirantes. Puis elle retira de son propre doigt une bague richement travaillée, et prenant le prince à l'écart, elle la lui passa à l'index. Après quoi, le serrant dans ses bras, « Mon fils, lui dit-elle d'une voix émue et tremblante, puisque tu refuses de me suivre, voici un talisman merveilleux dont je devais faire usage qu'à la dernière extrémité. Tant que tu auras au doigt cette bague, ni le fer ni le poison ne pourront rien contre toi. » « Vous le voyez bien, ma mère, répondit le prince en souriant. Protégé ainsi, vous n'avez plus aucune raison de craindre pour mes jours. Mais on ne meurt pas seulement par le poison ou par le fer, reprit la reine en soupirant. Rassurez-vous, ma mère, le plus puissant talisman contre tous les dangers. Ce sont les prières que vous adresserez à Dieu pour moi. C'est votre doux souvenir qui me soutiendra toujours dans le chemin du devoir et de la justice. C'est votre amour maternel qui veillera de loin sur moi et me couvrira de ses ailes comme un ange tutélaire. » Élisabeth embrassait son fils en sanglotant. Et en se détachant de lui, elle croyait que son cœur allait se briser dans sa poitrine. Enfin, elles se décidèrent à partir, suivies par toute la cour, qui n'avait pas démenti un seul instant à son égard sa courtoisie chevaleresque et son respectueux empressement. La pauvre mère, pâle, chancelante, anéantie, s'appuyait en marchant sur le bras d'André pour ne pas tomber. Arrivée sur le navire qui devait la séparer à jamais de son fils, elle se jeta une dernière fois à son cou, demeura ainsi longtemps sans voix, sans larmes, sans mouvement, et lorsque le signal du départ fut donné, ses femmes la reçurent dans leurs bras à moitié évanouies. André était resté sur le rivage, la mort dans l'âme, les yeux fixés sur cette voile qui s'éloignait rapidement, emportant tout ce qu'il aimait au monde. Tout à coup, il lui parut qu'on agitait au loin quelque chose de blanc. C'était sa mère qui, recouvrant l'usage de ses sens par un effort suprême, se traînait sur le pont pour lui faire un dernier signe d'adieu. Car elle sentait bien l'infortunée que c'était la dernière fois qu'elle verrait son fils. Presque au même instant que la mère d'André s'éloignait du royaume, l'ancienne reine de Naples, la veuve de Robert, Donna Sancia d'Aragon, rendait son dernier soupir. Elle fut enterrée dans le couvent de Sainte-Marie de la Croix, sous le nom de Claire, qu'elle avait pris en prononçant ses vœux de religieuse, comme le dit son épitaphe conçu en ces termes. Sigy, comme un exemple de grande humilité, le corps de la sainte sœur Claire, d'illustre mémoire, autrefois Sancia, reine de Sicile et de Jérusalem, veuve du Seigneur Sérénissime Robert, roi de Jérusalem et de Sicile, laquelle reine, après la mort du roi son mari, ayant fini son année de veuvage, échangeant les biens passagers contre les biens éternels, adoptant pour l'amour de Dieu une pauvreté volontaire, après avoir distribué ses biens aux pauvres, entra sous l'obéissance dans ce couvent célèbre de Sainte-Croix, œuvre de ses mains dans l'année 1344, le 21 janvier de la 12e indiction, où, ayant mené une vie béate sous la règle du bienheureux François, père des pauvres, termina ses jours religieusement dans l'année du Seigneur 1345, le 28 juillet de la 13e indiction. Le jour suivant, elle a été enterrée dans ce tombeau. La mort de Donna Sancia hâta la catastrophe qui devait ensanglanter le trône de Naples. On eût dit que Dieu avait voulu épargner un horrible spectacle à cet ange de résignation et d'amour qui s'offrait à lui comme une victime propitiatoire pour acheter les crimes de sa famille. 8 jours après les funérailles de l'ancienne reine, Bertrand d'Artois entra chez Jeanne, pâle, défait, les cheveux épars, dans un état d'agitation et de désordre impossible à décrire. Jeanne s'élança au-devant de son amant, saisie de frayeur et l'interrogeant du regard sur la cause de son trouble. « Oh, j'avais bien dit, madame !» s'écria le jeune homme avec emportement. « Vous finiriez par vous perdre tous en refusant obstinément d'écouter mes conseils. » « Mais par pitié, Bertrand, parlez sans détour. Qu'y a-t-il de nouveau? Quel conseil ai-je refusé de suivre ?»« Mais il y a, madame, que votre noble époux, André de Hongrie, vient d'être reconnu par la cour d'Avignon, roi de Jérusalem et de Sicile, et que désormais vous ne serez que son esclave. »« Mais vous rêvez, comte d'Artois. » »« Mais je ne rêve pas, madame. Et la preuve que ce que j'avance est la plus exacte vérité,
C'est que les légats du pape qui apporte la Bible du couronnement sont arrivés à Capoue, et que s'il entre pas ce soir même au Château-Neuf, c'est pour donner au nouveau roi le temps de faire ses préparatifs. La reine pencha la tête comme si la foudre venait d'éclater à ses pieds. Mais quand je vous ai dit, continua le comte avec une fureur croissante, qu'il fallait repousser la force par la force, qu'il fallait briser le joug de cette infâme tyrannie, qu'il fallait se défaire de cet homme avant qu'il eût les moyens de vous nuire, vous avez toujours reculé par une crainte puérile, par une lâche hésitation de femme. Jeanne leva sur son amant un regard plein de larmes. Mon Dieu, s'écria-t-elle en joignant les mains. Par un mouvement de désespoir, j'entendrai donc toujours retentir autour de moi ce fatal cri de mort. Et vous aussi, Bertrand, vous le répétez à votre tour, ainsi que Charles de Duras, ainsi que Robert de Cavannes. Pourquoi voulez-vous, malheureux, qu'un fantôme sanglant vienne se dresser entre nous pour étouffer de sa main de glace nos baisers adultères? Assez de crimes comme cela. Qu'il règne si sa triste ambition le pousse à régner. Que me fait le pouvoir pourvu qu'il m'aise voir votre amour? Oh, il n'est pas bien certain que nos amours aient une longue durée. Que voulez-vous dire, Bertrand? Vous prenez plaisir à me torturer sans pitié? Je dis, madame, que le nouveau roi de Naples a préparé un drapeau noir qu'il sera porté devant lui le jour de son couronnement. Et vous croyez, dit Jeanne en devenant pâle comme un cadavre sorti de son linceul, vous croyez que ce drapeau est une menace? Qui a déjà reçu un commencement d'exécution? La reine chancela et s'appuya sur une table pour ne pas tomber. Allez, racontez-moi tout, dit-elle d'une voix suffoquée. Ne craignez pas de m'effrayer. Voyez, je ne tremble pas au Bertrand, je vous en supplie. Bien, les traîtres ont commencé par l'homme que vous estimez le plus, par le plus sage, le conseiller de la couronne, par le magistrat le plus intègre, par le plus noble cœur, par la vertu la plus austère. André d'Isernia? Il n'est plus, madame. Jeanne poussa un cri comme si on eût tué devant elle le noble vieillard qu'elle respectait à l'égal d'un père. Puis, s'affaissant sur elle-même, elle retomba dans un profond silence. « Et comment l'ont-ils tué ? » reprit-elle enfin, en fixant sur le comte ses grands yeux effrayés. « Hier au soir, en sortant de ce château, tandis qu'il se dirigeait vers sa maison, un homme s'est dressé tout à coup devant lui, près de la porte Petruccia. Cet homme est un des favoris d'André, Gonrad de Cotis, qu'on a choisi sans doute parce qu'ayant lui-même à se plaindre d'un arrêt que l'incorruptible magistrat avait porté contre lui, le meurtre se révit sur le compte d'une vengeance privée. Le lâche a fait signe à deux ou trois de ses compagnons, qui ont entouré leur victime en lui ôtant tous les moyens de s'échapper. Et le pauvre vieillard a regardé fixement son assassin et lui a demandé d'une voix calme ce qu'il lui voulait. « Je veux que tu perdes la vie, comme tu m'as fait perdre mon procès !» s'est écrié le meurtrier. Et sans lui laisser le temps de proférer une réponse, il l'a percé d'un coup d'épée. Alors les autres se sont jetés sur le malheureux, qui n'essayait pas même de crier au secours, et l'ont criblé de blessures en mutilant hideusement son cadavre qu'ils ont laissé baigner dans son sang. « Horreur !» murmura la reine en couvrant son visage. « Mais ceci n'est que leur coup d'essai, car les listes de proscription sont déjà pleines. Il faut du sang à André pour célébrer son avènement au trône de Naples. Et savez-vous, Jeanne, quel est celui qui se trouve à la tête des condamnés ?»« Qui ?» demanda la reine en frissonnant de la tête aux pieds. « Mais moi !» répondit le comte d'un ton naturel. « Toi ?» s'écria Jeanne en se redressant de toute sa hauteur. « C'est toi qu'on veut tuer maintenant ? Oh, prends garde à toi, André !» Tu viens de prononcer ton arrêt de mort. J'ai longtemps détourné le poignard qui brillait sur ta poitrine, mais tu pousses à bout ma patience. Malheur à toi, prince de Hongrie. Oh, le sang que tu as versé rugira sur ta tête. En parlant ainsi, sa pâleur avait disparu. Son beau visage était animé du feu de la vengeance. Ses regards lançaient des éclairs. Cet enfant de 16 ans était terrible à voir. Elle serrait la main de son amant avec une tendresse convulsive et se collait près de lui comme si elle eût voulu lui faire un abri de son corps. « Oh, ta colère se réveille un peu tard !» continua le jeune comte d'une voix triste et douce. Car Jeanne lui parut si belle en ce moment qu'il n'eut pas la force de lui adresser un reproche. Tu ne sais donc pas que sa mère lui a laissé un talisman qui la préserve du poison et du fer. Mais il mourra, reprit Jeanne d'une voix ferme. Et le sourire qui va éclairer sa figure était si étrange que le comte baissa les yeux, effrayé à son tour. Le lendemain, la jeune reine de Naples, plus belle et plus souriante que jamais, assise avec un doux abandon près d'une croisée d'où la magnifique perspective du golfe se déroulait à ses yeux, tissait de ses mains un cordon de soie et d'or. Le soleil, après avoir parcouru les 2/3 à peu près de sa carrière embrasée, baignait lentement ses rayons dans les eaux bleues et limpides où le Posilippe réfléchissait sa cime couronnée de fleurs et de verdure. Une brise tiède et embaumée, après avoir effleuré en passant les orangers de Sorrente et d'Amalfi, apportait sa délicieuse fraîcheur aux habitants de la capitale engourdis par une voluptueuse mollesse. La ville entière se réveillait de sa longue sieste, respirant librement et soulevant sa paupière apesantie. Le môle se couvrait d'une population bruyante et infinie, bigarrée des plus vives couleurs, et des cris de fête, des chansons joyeuses, des refrains d'amour, s'élevant de tous les points de ce vaste amphithéâtre, qui est l'une des plus puissantes merveilles de la création, venait frapper l'oreille de Jeanne, qui les écoutait, le front penché sur son travail, et absorbé par une profonde rêverie. Tout à coup, et au moment où elle paraissait le plus occupée de son ouvrage, le bruit insaisissable d'une respiration comprimée et l'imperceptible frôlement d'une étoffe qui effleurait son épaule la firent brusquement tressaillir. Elle se tourna, comme réveillée en sursaut par le contact d'un serpent, et aperçut son mari, paré d'un magnifique costume, et nonchalamment appuyé sur le dossier de son fauteuil. Depuis longtemps, le prince n'était pas venu se placer aussi familièrement auprès de sa femme. Aussi, ce mouvement de tendresse et d'abandon sembla-t-il d'un mauvais augure à la reine. André ne parut pas remarquer le regard de haine et de terreur que sa femme avait laissé échapper malgré elle, et, donnant à ses traits froids et réguliers toute l'expression de douceur qu'il put prendre dans cette circonstance, il lui demanda en souriant « Mais pourquoi faites-vous ce beau cordon, ma chère et fidèle épouse ?»« C'est pour vous pendre, monseigneur, » répondit en souriant à son tour la reine. André haussa les épaules, ne voyant dans cette menace d'une incroyable témérité qu'une grossière plaisanterie. Mais, puis comme il vit que Jeanne se remettait à son ouvrage, il essaya de renouer la conversation. « Oui, j'avoue, continua-t-il d'une voix parfaitement calme, que ma demande est au moins superflue. J'aurais dû me douter, à l'empressement que vous mettez à terminer votre riche travail, qu'il est destiné à quelque beau chevalier que vous vous proposez d'envoyer, sous l'auspice de vos couleurs, à quelque entreprise dangereuse. Dans ce cas, ma belle souveraine, je réclame un ordre de votre bouche. Marquez le lieu et le temps de l'épreuve, et je suis sûr d'avance de remporter un prix que je disputerai à tous vos adorateurs. Cela n'est pas bien certain, reprit Jeanne, si vous êtes aussi vaillant en guerre qu'en amour. Et elle jeta à son mari un regard si lascif et si méprisant que le jeune homme en rougit jusqu'aux yeux. J'espère, reprit André en se contenant, vous donnez bientôt de telles preuves de mon affection que vous ne pourrez plus en douter. Et qu'est-ce qui vous fait supposer cela, monseigneur? Oh, je vous le dirai, si vous vouliez m'écouter sérieusement. Je vous écoute. Eh bien, ce qui me donne une si grande confiance dans l'avenir est un rêve que j'ai fait la nuit passée. Un rêve? Oh, cela mérite bien quelques explications de votre part. Oui, j'ai rêvé qu'il y avait une grande fête dans la ville. Une foule immense envahissait les rues comme un torrent qui déborde et faisait retentir le ciel de ses cris d'allégresse. Les sombres façades de marbre de granit avaient disparu sous des tentures de soie et des festons de fleurs. Les églises étaient parées comme pour les grandes solennités. Je chevauchais côte à côte avec vous. Jeanne fit un mouvement d'orgueil. Pardon, madame, ce n'est qu'un rêve. Je marchais donc à votre droite sur un beau cheval blanc, magnifiquement caparaçonné, et le maître justicier du royaume portait devant moi un drapeau déployé en signe d'honneur. Après avoir parcouru triomphalement les principaux quartiers de la cité, nous sommes arrivés, au son des clairons et des trompettes, à la royale église de Sainte-Claire, où est enterré votre aïeul et mon oncle. Et là, devant le maître-autel, le légat du pape, après avoir mis votre main dans la mienne, a prononcé un long discours et a posé tour à tour sur nos fronts la couronne de Jérusalem et de Sicile. Après quoi, les grands et le peuple se sont écriés d'une voix unanime « Vive le roi et la reine de Naples !» Et moi, voulant rendre éternel le souvenir d'une si glorieuse journée, j'ai ordonné des chevaliers parmi les plus zélés de la cour. Et vous ne vous rappelez pas les noms de ces élus que vous avez jugés dignes de vos royales faveurs? Si fait, madame, si fait. Bertrand, comte d'Artois. Assez, monseigneur. Je vous dispense de nommer les autres. J'ai toujours cru que vous étiez un magnifique et loyal seigneur, mais vous venez de m'en donner de nouvelles preuves en faisant tomber vos grâces sur les personnes que j'honore le plus de ma confiance. J'ignore si vos désirs doivent bientôt se réaliser, mais dans tous les cas, soyez sûr de ma reconnaissance éternelle. La voix de Jeanne ne trahissait pas la moindre émotion. Son regard était devenu caressant et le plus doux sourire errait sur ses lèvres. Mais dès ce moment, la mort d'André fut décidée dans son cœur. Le prince, trop préoccupé lui-même de ses projets de vengeance et trop confiant dans la toute-puissance de son talisman et dans sa bravoure personnelle, ne conçut pas le soupçon qu'on pourrait le prévenir. Il s'entretint longtemps avec sa femme sur le ton d'une causerie amicale et enjoué, cherchant à épier ses secrets et lui livrant les siens par des phrases tronquées et des réticences mystérieuses. Quand il crut voir que jusqu'au plus léger nuage de ses anciens ressentiments s'était dissipé du front de Jeanne, il la supplia de l'accompagner, elle et sa suite, dans une chasse magnifique qu'il organisait pour le 20 août, ajoutant que cette complaisance de la reine serait pour lui le gage le plus sûr de leur réconciliation complète et d'un entier oubli du passé. Jeanne le lui promit avec une grâce charmante et le prince se retira pleinement satisfait de son entretien, emportant la conviction qu'il n'aurait qu'à frapper les favoris de la reine pour s'en faire obéir et peut-être aimer encore. Mais la veille du 20 août, une scène étrange et terrible se passait au fond d'une des tours latérales du château neuf. Charles de Duras, qui n'avait cessé de couver dans l'ombre son projet infernal, averti par le notaire, qu'il avait chargé de veiller sur les progrès de la conspiration, que le soir même il devait y avoir une réunion définitive, enveloppé d'un manteau noir, se glissa dans un corridor souterrain et, caché derrière un pilier, il attendit l'issue de la conférence. Après 2 heures d'attente mortelle où chaque seconde était marquée par les battements de son cœur, Charles crut entendre le bruit d'une porte qu'on ouvrait avec la plus grande précaution. Un faible rayon, s'échappant de la fente d'une lanterne, trembla sous la voûte sans dissiper les ténèbres, et un homme, se détachant de la muraille, marcha dans sa direction comme un bas-relief vivant. Charles toussa légèrement, c'était le signal convenu. L'homme éteignit sa lumière et cacha le poignard qu'il avait tiré dans la crainte d'une surprise. « C'est toi, maître Nicolas ?» demanda le duc à voix basse. « C'est moi, monseigneur. »« Eh bien, mais on vient de décider la mort du prince pour demain en allant à la chasse. »« As-tu reconnu tous les conjurés ?» Tous, quoique leurs traits soient cachés par un masque, mais lorsqu'ils ont prononcé leur vote de mort, je les ai reconnus à leur voix. Pourrais-tu me les désigner? Un instant même, ils vont défiler par le fond de ce corridor et, qu'étonné, voici Tommaso Pace qui marche en avant des autres pour les éclairer. En effet, un long fantôme, noir de la tête aux pieds, le visage soigneusement caché par un masque en velours, une torche à la main, traversa le fond du couloir et s'arrêta sur le premier degré d'un escalier tournant qui menait aux étages supérieurs. Les conjurés s'avançaient lentement, deux à deux, comme une procession de spectres, passaient un moment dans le cercle lumineux projeté par la torche et disparaissaient dans l'ombre. « Voici Charles et Bertrand d'Artois, » dit le notaire. Voici les comtes de Terlizzi et de Cantarzaro. Voici le grand amiral et le grand sénéchal du royaume, Godefroy de Marsan, comte de Squillac, et Robert de Cabanes, comte d'Eboli. Ces deux femmes qui parlent à voix basse avec une si grande volubilité de gestes sont Catherine de Tarente, impératrice de Constantinople, et Philippa, la catanaise, gouvernante et première dame de la reine. « Hé, voici Donna Gancia, la camérière et la confidente de la Jeanne, et voici la comtesse de Morcone. » Le notaire s'arrêta en voyant paraître une ombre qui marchait toute seule, la tête basse, les bras pendants, étouffant ses sanglots sous les plis de son long capuchon noir. « Mais quelle est cette femme qui semble se traîner avec peine à la suite du lugubre cortège ?» demanda le duc en serrant le bras de son compagnon. « Mais cette femme, murmura le notaire, c'est la reine. »« Ah, ah, je la tiens, » pensa Charles en respirant à pleine poitrine, avec cette profonde satisfaction que doit éprouver Satan lorsqu'une âme longtemps convoitée tombe enfin en son pouvoir. « Et maintenant, monseigneur, » reprit maître Nicolas, lorsque tout fut rentré dans l'obscurité et dans le silence, si vous m'avez commandé d'épier les démarches des conjurés pour sauver le jeune prince que vous protégez de votre amitié vigilante, hâtez-vous de le prévenir, car demain peut-être il serait trop tard. Suis-moi, s'écria le duc d'un ton impérieux. Oh, il est temps que tu apprennes mes intentions véritables pour te conformer à mes ordres avec le plus scrupuleuse exactitude. Et en achevant ses paroles, il l'entraîna du côté opposé à celui par lequel les conjurés venaient de disparaître. Le notaire le suivit machinalement à travers un dédale de corridors obscurs et d'escaliers dérobés, sans pouvoir s'expliquer le brusque changement qui paraissait s'opérer dans l'esprit de son maître, lorsque, traversant une des antichambres du château, il rencontrait André, qui les aborda joyeusement. Le prince serra avec son amitié habituelle la main de son cousin de Duras et lui demanda avec une assurance qui n'admettait pas de refus Eh bien, duc, serez-vous demain de notre chasse?
Oh, excusez-moi, monseigneur, répondit Charles en s'inclinant jusqu'à terre. Il m'est impossible de vous accompagner demain, car ma femme est très souffrante, mais je vous prie d'accepter le plus beau de mes faucons.
Et il lança au notaire un regard qui le cloua à sa place. La matinée du 20 août se leva belle et sereine par une de ces ironies de la nature qui contrastent si cruellement avec les douleurs des hommes. Dès la pointe du jour, maîtres et valets, pages et chevaliers, princes et courtisans, tout le monde était sur pied. Des cris de joie s'élevèrent de toutes parts lorsque la reine parut, montée sur un cheval blanc comme la neige, à la tête de cette brillante jeunesse. Jeanne était peut-être plus pâle qu'à l'ordinaire, mais on pouvait attribuer sa pâleur à l'heure matinale à laquelle elle avait été obligée de se lever. André, pressant de ses genoux un des chevaux les plus fougueux qu'il eût dompté de sa vie, caracolait près de sa femme, avec une noble fierté, se sentait heureux de sa force, heureux de sa jeunesse, heureux de mille espérances dorées qui paraît son avenir des plus riches couleurs. Jamais la cour de Naples n'avait déployé plus d'éclat. Tous les sentiments de haine et de méfiance paraissaient complètement oubliés. Et frère Robert lui-même, les soupçonneux le ministre, voyant passer sous sa croisée cette joyeuse cavalcade, dérida son front soucieux et caressa sa barbe avec orgueil. L'intention d'André était de passer plusieurs jours en chassant entre Capoue et Aversa et de ne revenir à Naples que lorsque tout serait prêt pour son couronnement. En conséquence, le premier jour, on chassa près de Mélito et qu'on traversa deux ou trois villages de la terre de la bourre. Vers le soir, la cour s'arrêta pour passer la nuit à Aversa, et comme à cette époque il n'y avait pas dans la ville un château digne de recevoir la reine et son mari avec leur suite nombreuse, on transforma en demeure royale le couvent de Saint-Pierre à Magella, bâti par Charles II l'an du Seigneur 1309. Tandis que le grand sénéchal donnait des ordres pour le souper et faisait préparer à la hâte un appartement pour André et sa femme, le prince, qui s'était livré toute la journée, par une chaleur ardente à son plaisir favori avec tout l'abandon de la jeunesse, monta sur une terrasse pour respirer la brise du soir en compagnie de sa bonne Isolda, de sa chère nourrice, qui, l'aimant plus que sa mère, ne se séparait pas de lui un seul instant. Jamais le prince n'avait paru si animé et si content. Il s'extasiait sur la beauté de la campagne, sur la limpidité du ciel, sur le parfum de la verdure. Il accablait sa nourrice de mille questions, sans s'inquiéter de ses réponses, qui se laissait longtemps attendre, car la pauvre Isolda le contemplait avec cet air de ravissement profond qui rend les mères si distraites lorsqu'elles écoutent leurs enfants. André lui parlait-il avec ardeur d'un terrible sanglier qu'il avait poursuivi le matin à travers le bois et avait étendu, écumante, à ses pieds. Isolda l'interrompait pour l'avertir qu'il avait dans l'angle de l'œil un grain de poussière. André formait des projets pour l'avenir. Isolda, tout en caressant ses blonds cheveux, remarquait avec sollicitude qu'il devait être bien fatigué. Enfin, n'écoutant que ses transports, le jeune prince déliait la destinée et appelait de tous ses voeux des dangers pour les combattre. Et la pauvre nourrice s'écriait tout en pleurs: « Vous m'aimez plus, mon enfant !» Impatienté de ces interruptions continuelles, André la grondait doucement et jouait avec ses puériles frayeurs.
Puis, sans se rendre compte d'une mélancolique tendresse qui le gagnait insensiblement, il se fit raconter mille traits de son enfance, lui parla longtemps de son frère Louis, de sa mère absente, et une larme lui vint à la paupière quand il se rappela le dernier adieu maternel. Isolda l'écouta avec joie, répondit très naturellement à toutes ses demandes, mais aucun pressentiment n'agita son cœur, car la pauvre femme aimait André de toutes les forces de son âme. Elle aurait donné pour lui sa vie dans ce monde et sa part de ciel dans l'autre. Mais elle n'était pas sa mère. Lorsque tout fut prêt, Robert de Cabanes vint avertir le prince que la reine l'attendait. André jeta un dernier regard sur ces riantes campagnes que la nuit couvrait de son voile étoilé, porta sur ses lèvres et sur son cœur la main de sa nourrice et suivit le grand sénéchal lentement et comme un regret. Mais bientôt les lumières qui brillaient dans la salle, les vins qui circulaient en abondance, les gais propos, les écrits bruyants, les exploits de la journée, dissipèrent ce nuage de tristesse qui avait assombri pour un instant le front du prince. La reine seule, les coudes appuyés sur la table, les prunelles fixes, les lèvres immobiles, assistait à cet étrange festin, pâle et froide comme une apparition sinistre évoquée du tombeau pour troubler la joie des convives. André, dont la raison commençait à se noyer dans les flots du vin de Capré et de Syracuse, choqué de la contenance de sa femme, qu'il attribuait au dédain, remplit une coupe jusqu'au bord et la présenta à la reine. Jeanne tressaillit vivement et remua ses lèvres avec une agitation convulsive, mais les conjurés couvrirent de leurs voix éclatantes le frémissement involontaire qui venait de s'échapper de sa poitrine. Au milieu du tumulte général, Robert de Cavannes proposa de distribuer copieusement à la garde hongroise qui veillait aux avenues du couvent les mêmes vins qu'on avait servis à la table royale, et cette libéralité extravagante souleva des applaudissements frénétiques. Bientôt les cris des soldats, qui témoignaient leur reconnaissance pour une générosité si inattendue, se mêlèrent aux ovations des convives. Et pour compléter l'ivresse du prince, on s'écriait de toutes parts « Vive la reine, vive sa majesté le roi de Naples !» On prolongea l'orgie bien avant dans la nuit. On parla avec enthousiasme des plaisirs qu'on se promettait pour le lendemain, et Bertrand d'Artois remarqua tout haut qu'après une si longue veillée, tout le monde ne se lève peut-être pas à l'heure. André déclara que, quant à lui, une heure ou deux de repos suffirait pour le remettre entièrement de ses fatigues, et qu'il souhaitait vivement que son exemple ne restât pas sans imitateur. Le comte de Terlizzi parut exprimer respectueusement quelques doutes sur l'exactitude du prince. André se récria et, après avoir porté un défi à tous les barons présents, à qui serait debout le premier, il se retira avec la reine dans l'appartement qui leur était réservé, où il ne tarda pas à s'endormir d'un sommeil lourd et profond. Vers 2 heures du matin, Tommaso Pace, valet de chambre du prince et premier huissier des appartements royaux, vint frapper à la porte de son maître afin de le réveiller pour la chasse. Au premier coup, tout demeura dans le silence. Au second, Jeanne, qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit, fit un mouvement comme pour secouer son mari et l'avertir du danger qu'il menaçait. Au troisième, le malheureux jeune homme se réveilla en sursaut et, entendant dans la chambre voisine des rires et des chuchotements, persuadé qu'on plaisantait sur sa paresse, sauta de son lit la tête nue, couvert de sa chemise et chaussé à peine, et ouvrit la porte. Ici, nous traduisons littéralement le récit de Dominique Gravina, un des chroniqueurs les plus estimés.
Aussitôt que le prince se montra, les conjurés se jetèrent sur lui, tous à la fois, pour l'étouffer de leurs mains, car il ne pouvait mourir ni par le fer ni par le poison, à cause d'un anneau que sa pauvre mère lui avait donné. Mais André, fort et agile comme il était, voyant l'infâme trahison, se défendait avec une vigueur surnaturelle, et poussant des cris horribles, il se dégagea de l'étreinte de ses meurtriers, le visage sanglant et ses blonds cheveux arrachés par touffes. Le malheureux jeune homme essayait de gagner sa chambre pour prendre une arme et résister bravement à ses assassins. Mais arrivé près de la porte, le notaire Nicolas de Melazzo, passant son poignard comme un verrou dans les anneaux de la serrure, l'empêcha d'entrer. Le prince, criant toujours, implorant la protection de ses fidèles, retourna dans la salle. Mais toutes les portes étaient fermées, et personne ne mit en aide une main secourable, car la reine se taisait, sans montrer aucune inquiétude de la mort de son mari. Cependant, la nourrice et soldat, frappée par les hurlements de son cher fils et seigneur, bondissant de son lit et s'approchant de la fenêtre, remplissait la maison de cris épouvantables. Déjà les traîtres, effrayés par l'immense rumeur, quoique le lieu fût désert et tellement éloigné du centre de la ville que personne n'aurait pu accourir à ce bruit, se disposaient à lâcher leur victime, lorsque Bertrand d'Artois, se sentant plus coupable que les autres, excité par une rage d'enfer, saisit fortement le prince à bras-le-corps et le terrassa après une lutte désespérée, puis le traînant par les cheveux vers un balcon qui donnait sur les jardins et appuyant un genou sur sa poitrine. « À moi, baron !» s'écria-t-il en s'adressant aux autres. « J'ai ce qu'il faut pour l'étrangler !» Et il lui passa au cou un long cordon de soie et d'or, tandis que le malheureux se débattait de toutes ses forces. Mais Bertrand serra le nœud promptement, et les autres, jetant le corps par-dessus le parapet du balcon, le laissèrent ainsi suspendu entre le ciel et la terre, jusqu'à ce que la mort s'ensuivît. Et comme le comte de Terlizzi détournait les yeux avec horreur de cette affreuse agonie, Robert de Cabannes lui cria impérieusement « Mais que faites-vous là, mon bon frère? La corde est assez longue pour que chacun de nous puisse en tenir un bout. Il nous faut des complices et non des témoins. » Et aussitôt que les dernières convulsions du mourant eurent cessé, ils laissèrent tomber le cadavre de toute la hauteur des trois étages et, ouvrant les portes de la salle, s'en allèrent comme s'ils n'avaient rien fait. Isolda, ayant pu enfin se procurer de la lumière, monta rapidement à la chambre de la reine et, trouvant la porte fermée en dedans, elle se mit à appeler son fils à haute voix. Point de réponse. Et cependant, la reine était dans la chambre. La pauvre nourrice, égarée, tremblante et perdue, traversa tous les corridors, frappa toutes les cellules, réveilla les moines un à un, les priant de chercher le prince avec elle. Les moines répondirent qu'ils avaient entendu du bruit, en effet, mais croyant qu'il s'agissait d'une querelle de soldats ivres ou révoltés, ils n'avaient pas cru devoir intervenir. Isolda insiste par de plus vives prières. L'alarme se répand dans le couvent. Les religieux suivent la nourrice qui les précède avec un flambeau. Elle entre dans le jardin, aperçoit sur l'herbe quelque chose de blanc, s'avance en tremblant, pousse un cri aigu et tombe à la renverse. Le malheureux André gisait dans son sang, la corde au cou comme un voleur, la tête écrasée par la chute profonde. Alors deux moines montèrent à l'appartement de la reine et, frappant à la porte, avec respect, lui demandèrent d'une voix sépulcrale Madame la reine, que voulez-vous qu'on fasse du cadavre de votre mari? Et comme la reine ne donnait aucune réponse, ils redescendirent lentement au jardin, et s'agenouillant, un à la tête et l'autre au pied du mort, ils se mirent à réciter à voix basse les psaumes de la pénitence. Quand ils eurent prié une heure, deux autres moines montèrent également à la chambre de Jeanne, ayant répété la même demande sans obtenir de réponse. Ils relevèrent les deux premiers moines et prièrent à leur tour. Enfin, un troisième couple se présenta à la porte de cette chambre inexorable, et comme ils s'en revenaient consternés par le peu de succès de sa démarche, le peuple s'ameuta autour du couvent, et des cris de mort coururent sur cette multitude indignée. Déjà, les groupes devenaient plus serrés, les voix s'élevaient plus menaçantes, le torrent menaçait d'envahir la demeure royale lorsque la garde de la reine parut la lance au poing et une litière hermétiquement fermée et entourée des principaux barons de la cour traversa la foule frappée de stupeur. Jeanne, couverte d'un voile noir, se rendit au château neuf au milieu de son escorte et personne, disent les historiens, n'osa plus parler de cette mort.